Clément Alzon, récits et aventures polaires. Le naufrage de la Jeannette. Les directeurs de journaux américains ont toujours cherché l'exceptionnel, l'inattendu. Il était naturel que l'un d'eux songeât à la découverte du pôle. Ce fut Gordon Bennett, directeur du New York Herald. Il fit venir en 1878 le capitaine DeLong, qui avait déjà affronté les glaces polaires. Croyez-vous, capitaine, qu'on puisse conduire un bateau jusqu'au pôle Nord ? J'y crois aussi fermement, répondit DeLong, qu'on peut croire à un événement à venir.
Eh bien, ma caisse vous est ouverte, dit Gordon Bennett.
Choisissez votre navire et votre équipage et partez. Un reporter du New York Herald vous accompagnera pour donner de vos nouvelles à nos lecteurs. Je ne mets qu'une condition, répliqua DeLong. C'est de n'embarquer ni français ni italien. Ce désir, peu aimable pour nous, fut exaucé. Il n'y eut à bord ni français ni italien, mais par contre quelques chinois. DeLong acheta un trois-mâts barque à machine auxiliaire, la Jeannette. En fit consolider la coque et partit de San Francisco le 8 juillet 1879 au milieu d'un concert d'acclamations, car Gordon Bennett avait su naturellement lui faire de la réclame. Il se dirigea vers le détroit de Bering, puis vers l'océan polaire. Délibérément, DeLong essaya de se tailler sa route au milieu des glaces dans la direction du pôle. Il ne réussit qu'à faire complètement bloqué son navire. Dès la fin de septembre, il devint évident qu'il faudrait passer l'hiver à la merci de la banquise, dont la dérive, très irrégulière, était dirigée vers le nord-ouest. Les pressions des glaces ne tardèrent pas à devenir très fortes. En se heurtant et en se bousculant les uns sur les autres, les glaçons produisaient parfois un si épouvantable tumulte qu'ils arrachaient aux chiens des hurlements de frayeur. Le navire gémissait, se déformait et résistait tout de même. L'éventualité de l'abandonner avait été envisagée, mais elle ne se produisit pas immédiatement. La Noël arriva. L'équipage la fêta avec bonne humeur. Le programme de la représentation théâtrale improvisée par Collins, le reporter du New York Herald, nous a été conservé. La plupart des acteurs ne devaient jamais revoir le monde civilisé. Dès la fin de janvier 1880, des voies d'eau se produisirent. L'équipage, par des froids de moins 40 degrés, passa de longues heures aux pompes pour épuiser les cales. Le printemps, puis l'été revinrent et les journées ensoleillées ramenèrent l'espoir. Mais pendant tout l'été, la mer libre ne fut jamais en vue et la prison de glace ne s'ouvrit pas. On se résolut, bon gré et mal gré, à passer un nouvel hiver, toujours poussé par la dérive vers des régions inconnues où apparaissent des îles nouvelles, l'île Henriette, l'île Jeannette. Au printemps suivant, les pressions augmentèrent. Cette fois, la Jeannette subissait un assaut auquel elle ne résisterait pas. Bientôt, un déchirement épouvantable se fit entendre. Un mécanicien se précipita sur le pont en criant « La glace pénètre dans la soute à charbon !» Et l'on aperçut distinctement le clapotement de l'eau qui envahissait la cale. « Hissez le pavillon !» commanda DeLong, car il voulait que son navire coulât le pavillon haut. Ce ne fut que lorsque le pavillon des États-Unis fut déferlé en tête du mât qu'il donna l'ordre d'évacuer le navire.
on jeta, pêle-mêle sur la glace, tout ce qui pouvait être sauvé. Soutenue par la pression des glaces, la Jeannette résista encore pendant une dizaine d'heures. Puis, s'enfonça, brusquement, le 13 juin 1881, par 77 degrés 17 de latitude et 153 degrés 42 de longitude est. Le capitaine de Long, l'ingénieur mécanicien Melville et leurs compagnons se retrouvèrent sur la banquise avec les chiens, deux canots, une baleinière, un you-you, des tentes, des traîneaux, des sacs de couchage, des vêtements, des vivres. La retraite, vers les côtes de Sibérie, pouvait être envisagée sans trop d'anxiété. Le soir même, Delong notait sur son journal « J'ai bon espoir de nous en tirer ». Et les matelots se mirent en route en chantant. Mais on dut bientôt en rabattre. Le traînage des embarcations chargées de vivres se révéla vite extrêmement difficile sur la banquise toute bouleversée, presque impossible. Les charges furent réduites. Un autre obstacle, bien plus grave, que Delong découvrit les premiers jours, mais qu'il se garda bien de communiquer à ses compagnons, fut la dérive de la banquise vers le nord, souvent plus rapide que ne l'était leur propre marche vers le sud. Ils n'auraient jamais réussi à gagner la terre si l'été n'avait heureusement désagrégé les glaces et rendu la mer assez libre pour les embarcations. Les marins se retrouvaient sur leur élément. Ils n'allaient plus avoir à traîner leurs canots, mais se laisser porter par eux. Ils se croyaient sauvés. L'équipage fut réparti dans trois embarcations, commandées respectivement par Delong, Melville et Chip. Ils franchirent ainsi les chenaux de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie, puis le 12 septembre, ils mirent le cap vers le sud en se donnant comme point de rendez-vous l'embouchure de la Léna. Une violente tempête dispersa les embarcations. On ne trouva plus jamais trace du canot commandé par Chip et des 8 hommes qui le montaient. Chip était le meilleur marin de nous tous, mais son canot était le plus petit, dit plus tard Melville. Melville réussit à atterrir le 14 septembre et à gagner Yakoutsk après 50 jours de marche avec les 10 hommes qui l'accompagnaient. Quant à Delong, après de traverses nombreuses, il gagna le rivage dans une région complètement déserte. Son équipage était épuisé et malade. Il s'achemina, dès qu'il le put, vers le sud, les plus valides portant les plus impotents. Le gibier était extrêmement rare. Aucun indigène ne se montrait. La petite provision de vivres qu'ils avaient débarquée diminuait rapidement. On était déjà au début d'octobre et l'hiver arrivait à grands pas. Alors, Delong se résolut à envoyer en avant, en quête d'un secours problématique que d'ailleurs ils ne trouvèrent pas, les 2 hommes les plus valides, Ninderman et Norros. Et il continua, à petite étape, sa marche vers le sud. Le journal, que Delong écrivit tous les jours jusqu'à sa mort, est un des documents les plus émouvants. Lundi 10 octobre. Nous avons pris notre dernière once d'alcool ce matin à 5 heures. Mangé des morceaux de peau de renne. Hier, nous avons mangé la peau de renne qui servait à envelopper mes pieds. Légère brise de sud-est, température supportable, en route à 8 heures. En traversant une crique, 3 d'entre nous sont tombés à l'eau de sorte que nous avons été obligés de faire du feu pour sécher leurs vêtements. Nous sommes repartis à 11 heures, mais la marche était horriblement difficile. Li, un des Chinois, nous a suppliés de l'abandonner. Naturellement, nous ne l'avons pas fait. Vers 3 heures, étant épuisés, nous nous sommes traînés dans une brèche de la rive, où nous avons allumé du feu avec le bois que nous avons pu trouver. Alexis est ensuite parti chercher du gibier, mais est revenu les mains vides. Nous n'avons pour souper qu'une cuillère de glycérine. Tout le monde est faible, mais plein de courage. Que Dieu
et pitié de nous. Mardi 11 octobre. Ouragan du sud-ouest, accompagné de neige. Nous sommes incapables d'aller plus loin. Nous n'avons pour toute nourriture qu'une cuillerée de glycérine et de l'eau chaude. Mercredi 12 octobre. Nous avons pris à déjeuner notre dernière cuillerée de glycérine. Pour dîner, nous aurons deux poignées d'écorce de saule arctique que nous ferons infuser dans un pot d'eau. Chacun devient de plus en plus faible. C'est à peine si nous avons assez de force pour aller chercher du bois. L'ouragan du sud-ouest et la neige continuent. Jeudi 13 octobre. Infusion de saule, vent violent du sud-ouest, nous sommes dans la main de Dieu. S'il ne vient à notre secours, nous sommes perdus. Nous ne pouvons plus marcher contre le vent et rester ici, c'est mourir de faim. Dans l'après-midi, nous avons fait un mille en avant, pendant lequel nous avons eu à traverser une autre rivière ou un coude de la grande. Après l'avoir traversé, nous nous sommes aperçus que l'île avait disparu. Nous nous sommes réfugiés dans un trou de la berge et j'ai envoyé à la recherche de Lee. Il s'était laissé tomber sur la neige et attendait la mort. Nous avons récité tous ensemble le pater et le credo. Après souper, l'ouragan redouble de violence. Nuit horrible. Vendredi 14 octobre. À déjeuner, une infusion de saule. À dîner, la moitié d'une cuillère à thé d'huile et infusion de saule. Le vent du sud-ouest s'apaise. Samedi 15 octobre. Infusion de saule et deux vieilles bottes. Décidons de partir au lever du soleil. Alexis n'en peut plus. Lee non plus. Arrivons à une embarcation. Elle est vide. Halte et campement. Dimanche 16 octobre. Alexis complètement épuisé. Service divin. Lundi 17 octobre. Alexis mourant. Nous disons la prière pour les mourants. Jour anniversaire de la naissance de Collins, qui a 40 ans. Alexis meurt vers le coucher du soleil. Nous l'avons couvert du pavillon et couché dans l'embarcation. Mardi 18 octobre. Calme et doux. Neige. Ensevelit Alexis l'après-midi. Nous l'avons déposé sur la glace de la rivière et recouvert de plaques de glace. Mercredi 19 octobre. Coupons notre tente en morceaux pour nous envelopper les pieds. Le docteur Ambler a recherché un nouvel emplacement pour camper. Nous nous y sommes rendus dans l'après-midi. Jeudi 20 octobre. Temps clair, avec soleil, mais très froid. Lee et Knack agonisent. Vendredi 21 octobre. Vers minuit, le docteur et moi avons trouvé Knack mort entre nous deux. Lee a rendu le dernier soupir. À midi. Nous avons lu les prières des morts quand nous l'avons vu sur le point de trépasser. Samedi 22 octobre. Le docteur, Collins et moi, nous avons porté les corps de Knack et de Lee de l'autre côté de la pointe pour les soustraire à notre vue. Dimanche 23 octobre. Tous assez faibles, nous avons cherché du bois. Lu une partie du service divin. Lundi 24. Nuit cruelle. Jeudi 27. Iverson n'en peut plus. Vendredi 28. Iverson est mort ce matin. Samedi 29. Dressler est mort cette nuit. Dimanche 30. Boyd et Gortz sont morts pendant la nuit. Collins est mourant. Ici s'arrête le journal de DeLonge.
Il est probable qu'il mourut, lui aussi, ce jour-là. Ce ne fut que l'année suivante que Melville retrouva son corps. Sa main dépassait, comme pour un appel, la surface de la neige. À côté de lui étaient ses cartes, ses carnets de route, le journal de bord de la Jeannette qu'il n'avait jamais voulu abandonner. La simple croix de bois que Melville éleva à la mémoire des morts de la Jeannette sur les rives de la Léna abrite les corps de purs héros arctiques qui ont lutté jusqu'à leur dernier souffle, sans songer aux sinistres expédients cannibales qui ont déshonoré, parfois, les dernières heures d'explorateurs affamés. Nansen. Ceci pourrait commencer comme pêcheurs d'Islande, de Pierre Loti. Ils étaient 13, aux carrures terribles, dans une sorte de logis sombre qui sentait la saumure et la mer. Le gîte, trop bas pour leur taille, s'effilait par un bout, comme l'intérieur d'une grande mouette vidée. Il oscillait faiblement, en rendant une plainte monotone avec une lenteur de sommeil. Dehors, ce devait être la mer et la nuit, mais on n'en savait trop rien. Une seule ouverture coupée dans le plafond était fermée par un couvercle en bois, et c'était une vieille lampe suspendue qui les éclairait en vacillant. Il y avait du feu dans un fourneau. Leurs vêtements mouillés séchaient en répandant de la vapeur qui se mêlait aux fumées de leurs pipes de terre. En 1881, le navire d'expédition polaire La Jeannette, à jamais célèbre pour les souffrances de son équipage, avait été broyé par les glaces au nord de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie. 3 années plus tard, des Esquimaux trouvèrent sur un glaçon, dans le voisinage de l'extrémité méridionale du Groenland, des boîtes de biscuits brisées et d'autres épaves provenant, sans aucun doute, du navire naufragé. Cette découverte saisissante jeta un jour nouveau sur les courants de l'océan glacial, car le bloc de glace chargé de ces débris n'avait pu arriver au Groenland qu'en traversant le bassin polaire. Suivant toute vraisemblance, les épaves avaient passé au nord de la terre François-Joseph et du Spitzberg, et probablement dans le voisinage du pôle. Le Norvégien, Fridtjof Nansen, eut l'idée que le même courant qui avait guidé les restes de la Jeannette pouvait aussi bien entraîner un navire assez solide pour résister à l'étau des glaces. Si la plupart des expéditions vers le pôle ont échoué, écrit-il, c'est qu'elles ont été dirigées dans des mers où le courant porte vers le sud. À mesure que le navire avançait dans la direction du nord, les glaces devenaient de plus en plus nombreuses, puis finalement bloquaient le navire et l'entraînaient en arrière. Si l'on avançait avec des traîneaux sur la banquise, les explorateurs s'épuisaient en efforts inutiles. Auprès de terribles fatigues, ils marchaient vers le nord et pendant ce temps, la lente dérive des eaux repoussait vers le sud la banquise sur laquelle ils croyaient avancer. Pour atteindre le bassin polaire, il faut, au contraire, suivre un courant portant au nord, gagner les îles de la Nouvelle-Sibérie, de là avancer aussi loin que possible vers le nord en se frayant un passage à travers les glaces, puis, une fois tout tissu fermé dans cette direction, se laisser entraîner vers le nord-ouest par la lente dérive qui porte les eaux de l'océan glacial de Sibérie vers le Groenland. Tel était le plan du voyage que j'élaborais. Un pareil projet fut loin d'être approuvé par les explorateurs polaires. Ils objectaient qu'il n'était pas possible de construire un navire capable de résister aux pressions des glaces arctiques, que c'était folie de partir pour une expédition polaire sans se ménager une ligne de retraite et une possibilité de retour. Nansen, sans se laisser décourager par les objections, garda confiance. Le constructeur norvégien, Colin Archer, construisit un navire très solide, auquel il donna le nom de Fram, en avant, la devise même de Nansen. Ses formes, parfaitement lisses, étaient arrondies de façon à se soulever et non à s'écraser sous la pression des glaces. Son tonnage, en plein chargement, atteignait 800 tonnes. Une machine de 220 chevaux lui donnait par temps calme une vitesse de 6 à 7 nœuds. L'équipage se composait de 13 personnes, avec Otto Sverdrup comme capitaine. Le Fram, approvisionné pour 5 ans, quitta Oslo le 24 juin 1893. Et le 25 septembre, après une traversée dans l'ensemble assez heureuse le long des côtes septentrionales de la Sibérie, il se fit prendre dans les glaces au nord des îles de la Nouvelle-Sibérie, pas très loin de l'endroit où avait sombré la Jeannette. Bientôt, les pressions des glaces commencèrent. « Nous voilà donc, » écrit Nansen, en plein dans les terribles difficultés que nous avaient annoncées les prophètes de malheur. La glace nous presse et s'amoncelle autour de nous en murailles menaçantes, aussi hautes que notre mâture. Elle fait un bruit d'enfer. Et certes, elle cherche bien à réduire le Fram en miettes, et il ne se passe rien. Et plus tard, confiant dans la résistance du navire, nous éprouvons une sensation agréable à regarder ces scènes terribles. Souvent même, nul ne songe à se déranger pour surveiller l'attaque. Ni les chocs, ni les détonations de la banquise n'arrêtent les conversations et les rires dans le carré. La dérive vers le nord fut très lente. Au bout de 16 mois, après des zigzags en tous sens, le Fram n'avait parcouru que 360 milles, mais il avait atteint le 84e parallèle. Le séjour dans les glaces était certes monotone, mais les marins du Fram n'éprouvèrent aucune des souffrances de la nuit polaire, décrite en termes si dramatiques par beaucoup d'explorateurs. Dans ce monde des glaces, les années passent sans laisser de traces derrière elles. Il n'y a pas d'événement dans cette nature silencieuse. À travers l'obscurité profonde qui enveloppe ce monde muet, on ne voit que le scintillement des étoiles et les flammes de l'aurore boréale. Nansen va même jusqu'à affirmer qu'il mène une vie de sybarite. Le travail de laboratoire et de recherche scientifique dans ce monde complètement inconnu apporte une distraction salutaire. Mais un homme d'action comme Nansen ne pouvait s'en contenter. lorsqu'il fut convaincu que la dérive ne ferait pas passer le Fram dans le voisinage immédiat du pôle, il décida de quitter le navire pour tenter, sur la glace, un raid vers le nord. Pendant plusieurs mois, il hésite. Non pas parce qu'il craint pour lui-même les dangers d'un pareil voyage, mais parce qu'il se demande s'il a bien le droit d'abandonner ses compagnons, si le Fram ne revient pas. Et si lui-même survit à l'aventure, ne lui reprochera-t-on pas d'avoir choisi la part la moins dangereuse ? Si ses compagnons doivent abandonner un jour le navire, n'auront-ils pas besoin pour regagner la terre la plus proche des attelages de chiens dont il va lui-même les priver ? Des voix, très autorisées, n'ont pas manqué de lui adresser ses critiques même après le succès de l'expédition. Qu'aurait-elle dit si l'expédition avait eu un dénouement tragique ? Ses scrupules, cependant, ne l'arrêtent pas. Le Fram est solide. Il résistera à toutes les épreuves. Et ses camarades, sous la direction de Sverdrup, n'ont qu'à être patients et à se laisser vivre. L'épave de la Jeannette retrouvée sur les côtes du Groenland ne peut mentir. Le courant existe. Et un jour ou l'autre, le Fram, libéré des glaces, voguera en mer libre au nord du Spitzberg. Donc, un mois de mars 1895, Nansen, avec un seul compagnon, le matelot Johansen, quitte le Fram, alors par 80 degrés nord et 90 degrés est. Il pique droit au nord, sur la banquise, avec des embarcations de peaux, des traîneaux et des chiens. Il a fait le rêve d'atteindre le pôle. Mais, sur la banquise mouvante, une fois le Fram quitté, il n'a pas la possibilité de le retrouver. Et il devra gagner au retour la terre la plus proche, la terre François-Joseph. C'est un projet extrêmement hardi, une folie, n'aurait-on pas manqué de dire, s'il avait échoué. Après 24 jours de marche, le 8 avril 1895, les deux hommes arrivèrent à la latitude de 86 degrés 12. La banquise, bouleversée, coupée parfois de larges bandes d'eau libre, ne leur avait pas permis d'aller plus loin. Pour vous donner une idée de cette banquise, représentez-vous un empilement d'énormes glaçons séparés tantôt par des trous remplis de neige molle et d'eau, tantôt par de larges étangs. Une suite de montagnes russes branlantes, après une colline, un ravin. Bref, un terrain formé de blocs inégaux entassés dans le désordre le plus extravagant. Nulle part, la moindre plaque unie où l'on pourrait dresser la tente et attendre. Ils n'avaient pas conquis le pôle, comme Nansen l'avait un moment espéré, mais ils avaient dépassé de plus de 3 degrés la plus haute latitude atteinte avant eux par les hommes. Leur record ne fut battu que 5 ans plus tard, par l'expédition du duc des Abruzzes. Ils partirent alors en retraite vers la terre François-Joseph qui était à 700 km au moins. Après des incidents multiples, tuant leurs chiens l'un après l'autre pour ne pas mourir de faim, risquant plusieurs fois de se noyer entre les glaçons, ils atteignirent une terre à la fin du mois d'août, sans bien savoir au juste laquelle, car Nansen avait eu la malchance de laisser sa montre s'arrêter. Mais qu'importait ? C'était la terre, après 145 jours de lutte continuelle sur la glace marine. Nous étions heureux comme des enfants, note simplement Nansen. Un instant, ils espérèrent trouver avant l'hiver un campement habité et peut-être regagner tout de suite leur pays. Mais il n'était pas si facile qu'ils l'avaient cru d'aller vers le sud. Il fallut se résoudre bientôt à passer l'hiver dans ces parages sans autre ressource que ce qui leur restait de leur raid vers le pôle. Heureusement, leurs munitions étaient encore abondantes, les ours et les morses étaient nombreux et ils étaient sûrs de ne pas mourir de faim. Leur ingéniosité suffirait pour le reste. Ils construisirent une hutte de pierre, tout juste assez grande pour que Nansen puisse s'y allonger. Des peaux d'ours la rendirent relativement confortable. En tout cas, c'était un abri solide contre le vent.
ce qui leur avait manqué depuis leur départ du Fram. Des lampes à huile de morse arrivaient à entretenir une température d'environ zéro, même lorsqu'à l'extérieur, il faisait moins 50. Nous ne prenions pas beaucoup d'exercices par grand froid, écrit Nansen, car nos vêtements étaient dans un tel état de délabrement qu'il était prudent de s'aventurer le moins possible en plein air. Nous attendions que l'hiver passât. Comme on demandait à Johansson quel souvenir le plus saillant il avait conservé de cet hivernage, le souvenir des coups de pied que Nansen me donnait pour m'empêcher de ronfler, répondit-il. La belle saison arriva enfin, et, le 19 mai 1896, ils reprirent leur route vers le sud, ne sachant toujours pas s'ils étaient sur la terre François-Joseph ou sur le Spitzberg. Ils eurent encore bien des aventures et manquèrent plusieurs fois de perdre leurs deux kayaks et leurs précieux chargements. La plus belle de leurs aventures fut celle qui leur arriva le 23 juin. Ils entendirent soudainement l'aboiement d'un chien. Ils n'en crurent d'abord pas à leurs oreilles. Nansen partit à la découverte et bientôt aperçut un chien et un homme. L'homme était l'explorateur anglais Jackson, qui explorait l'archipel François-Joseph et dont les confortables quartiers d'hiver étaient proches. Nansen, sale, les vêtements déchirés, rapiécés, couverts d'huile, étaient méconnaissables. « Je suis heureux de vous voir, » dit Jackson, comme si de pareilles rencontres n'avaient rien d'insolite. « Merci, moi de même, » dit Nansen. « Votre navire est loin d'ici ?»«
Je n'ai pas de navire. »«
Combien d'hommes êtes-vous ?»«
J'ai un seul compagnon avec moi. »
Soudain, Jackson s'arrêta et dit « Ne seriez-vous pas Nansen ?»«
Je suis en effet Nansen. »«
Oh, je suis très heureux de vous voir !» Ce fut ainsi que Nansen et Johansson parvinrent au bout de leur peine. En juillet, le Windyard les rapatria en Norvège. Et, par une heureuse coïncidence, le jour de leur débarquement dans leur pays, le Fram était libéré des glaces. Sous le commandement de Sverdrup, le navire avait continué à dériver lentement vers l'ouest en subissant sans dommage les pressions de la banquise. Il passa par la latitude de 85 57 degrés, à peine 15 milles au sud du record de Nansen. Au mois d'août 1896, il arriva en vue de la mer libre au nord du Spitzberg. L'expédition de Nansen restera à jamais une des plus belles prouesses polaires. Elle ne fut pas seulement une victoire d'endurance et d'énergie, elle a été surtout la réalisation d'une conception théorique, d'une idée.